Alors, bonsoir tout le monde, Monsieur le Préfet.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je vais faire l'appel de présence. Monsieur Jacqueline Bégin.
Présent.
Monsieur Marcel Cloutier.
Présent.
Dautier. Alors, Monsieur Cloutier est là. Monsieur Alain Gagnon d'Autier-Nord. Alors, pour le moment, Monsieur Gagnon d'Autier-Nord n'est pas là. On notera sa présence s'il se joint à nous. Je vais attendre un petit peu. Il y a quelqu'un qui se branche, un nom qui m'est inconnu. La personne qui est branchée avec le nom de Nicolas Provencher, est-ce que c'est M. Gagnon d'Autier-Nord?
Ça va pas bien.
Alors, en effet, je pense que c'est bien ça. Oui, c'est Mme Laurie que je reconnais. Alors, M. Gagnon d'Autier-Nord, je venais justement de demander si j'étais présent. Alors, je le constate à l'écran. M. Daniel Favreau de Chazelle n'est pas là. Monsieur Daniel Céleste de Clermont.
Présent.
Bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Michel Cliche de Clerval.
Présent.
Alors, en passant, Monsieur Cliche, bienvenue en tant que nouveau maire de Clerval autour de la table des maires de la MRC d'Abitibi-Ouest.
Merci.
Monsieur Jacques Ricard de Duparquet. Il me fait un pouce dans les airs. Parfait. Merci, M. Ricard. M. Rémi-Jean de Dupuis.
Présent.
M. Henri Bourque de Galichamps.
Présent.
Mme Sylvie Perrault de La Reine.
Présent.
M. Yves Dubé de La Sarre.
Oui.
Mme Lina Lafrenière de Macamic.
Présent.
M. Roger Lévesque de Nord-Métal. On note l'absence de M. Lévesque. Mme Louisa Gobeil de Palmarol. On note également l'absence de Mme Gobeil. M. Pierre Godbout de Poulary.
Présent.
M. Alain Gagnon de Rapide Danseur.
Présent.
M. Léo Plourde de Roquemort. Il est présent, toutefois muet. Son micro ne fonctionne pas. Au besoin, il va nous écrire dans Converser ou Chat, puis il a fait un pouce dans les airs. Merci, M. Plourde. Mme Diane Provost de Saint-Lambert de Démelois.
Présente.
M. David Goulet de Saint-Germain-Boulay.
Oui.
M. Florent Bédard de Sainte-Hélène-de-Mansebourg. Alors, M. Bédard est absent. M. Lucien Côté de Tachereau.
Présent.
Et M. Alain Guillemette de Val-Saint-Gilles.
Présent.
Alors, nous avons fait l'appel et nous avons quorum, M. le Préfet. À vous la parole.
Merci beaucoup, M. Lagarge. Donc, bonsoir à tous, tout le monde. Vous avez le projet d'ordre du jour entre les mains. Donc, un, mot bienvenue. Deux, tenue de la séance à huis clos. Trois, lecture et adoption de l'ordre du jour. Quatre, adoption des procès-verbaux. Cinq, ratification des procès-verbaux. 6. Affaires en découlant. 7. Rapports et comptes rendus. 8. Informations. 9. On a la gouvernance. 10. Évaluation foncière. 11. Développement. 12. Gestion des territoires non organisés. 13. Résolutions diverses. 14. Avis de motion, projet et adoption de règlement. 15. Aménagement. 16. Parole au public. 17. Levée et fermeture de la séance. Le proposeur pour l'ordre du jour, M. Godbout, secondé de M. Céleste. Donc, comme vous le savez, c'est la tenue de la séance à huis clos. Donc, ça va être sous enregistrement qui va être diffusé là, sur le site Internet de la MRC. Donc, l'ordre du jour, puis l'adoption s'est faite. Donc, on irait à l'adoption des procès-verbaux
du Conseil de l'administration. Monsieur le Préfet, il faudrait avoir une proposition permettant la séance à huis clos.
Oh, parfait, je m'excuse.
S'il vous plaît.
Pour la séance à huis clos, M. Plourde et M. Goulet. Donc, on va inverser. On avait déjà fait l'adoption de l'ordre du jour. Quatre adoptions de procès-verbaux. Vous avez reçu le procès-verbal du conseil d'administration du 17 juin 2020. Je prendrai une résolution pour si c'est conforme à nos discussions. Ouais. M. Godbout.
M. Godbout était absent le 17 juin, donc il y a M. Bourque que je viens de voir qui a levé le pouce.
Oui, M. Céleste et M. Bourque. Merci. On a la ratification des procès-verbaux du comité administratif pour le 8 juin, le 9 juillet et le 19 août. Je surveille les pouces. Monsieur Plourde, secondé de Monsieur Bourque. Merci beaucoup. Affaire en découlant, Monsieur Lagrange.
Dans affaire en découlant, Monsieur le Préfet, on n'a seulement qu'un avis de réception par rapport à notre résolution sur le projet de règlement modifiant le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, ce qu'on appelle communément le Q2R22. Alors, c'est un accusé de réception qu'on a de la part de la directrice direction des eaux usées, ministère de l'Environnement. C'est le seul point qu'il y avait à faire en découlant pour ce point-ci. J'ai d'autres points toutefois que je veux amener à votre attention. C'est au niveau de l'enveloppe fonds région et ruralité. Alors, il y a différents dossiers qui ont été présentés au comité administratif, considérant que pendant l'été, il y avait congé là, du conseil d'administration. Donc, au comité administratif d'août dernier, on a fait autoriser des dépenses qui utilisent le fonds région-ruralité, donc à cet effet-là. Alors, comme ce fonds-là, ça passe au conseil d'administration, l'information, c'est sûr que tous les comités administratifs, vous avez les procès-verbaux, mais on tenait quand même à souligner là, ces dossiers-là. Donc, offre de service de M. Mathieu Dupuis qui a été recommandée et acceptée pour une mise à jour de notre banque de photographies, donc pour l'année 2020-2021. Alors, des paysages, différentes activités, donc c'est pour remonter notre banque de photos. Donc, l'offre de service a été recommandée, acceptée. On a également une offre de service au Centre de recherche industrielle du Québec. Alors, encore là, pour utiliser le fonds région ruralité à cet effet. Le Centre de recherche industrielle du Québec, c'est une offre de service pour l'évaluation de nos scénarios en gestion de matières résiduelles organiques. Alors, certains d'entre vous se posent la question, est-ce que ça avance, ce dossier-là? Alors, oui, ça avance. On a d'ailleurs débuté là, les travaux, les échanges avec le CRIC, donc qui est le consultant à ce niveau-là. Et finalement, on a également dans la même ordre de thématique le compostage. On a demandé à Solinov de réviser les scénarios qui ont été étudiés. Donc, c'est une mise à jour là, des différents scénarios que Solinov a déjà fait dans le passé, en 2018, si je ne me trompe pas, là, les derniers résultats. Donc, c'est de faire une validation avec le contexte 2020-2021, mise à jour des coûts, et en lien aussi avec le programme qui a été mis à jour du gouvernement, donc qui a été bonifié. Alors, ils auront également un rapport à déposer au niveau de la MRC là, prochainement. Alors, on voulait vous souligner ces décisions-là qui ont été prises au comité administratif pour des dossiers quand même d'importance là, au niveau de la MRC. Alors, ça fait le tour pour l'affaire en découlant.
Parfait, merci beaucoup. Dans rapport et compte rendu, on pourrait peut-être commencer avec la visite du premier ministre, qu'on a eu la chance d'avoir parmi nous. Donc, c'est notre députée, Mme Suzanne Blais, qui a réussi à inviter notre premier ministre chez nous. Donc, nous étions 11 de la MRC à Abitibi-Ouest avec lui. Donc, on a pu échanger puis lui parler de nos priorités. On a fait au niveau des infrastructures, on a fait mention là, du sanatorium académique, du CHSLD, de la maison des aînés à Palmarol. On a parlé aussi d'un gros projet pour le Centre de formation professionnelle du Lac Abitibi, qui est le Centre d'expertise en mécanique. Là, ça m'a changé des camps, ça m'a fait peur, mais c'est pas grave. Donc, je pense que ça a été une bonne rencontre et qu'on a pu apprécier un premier ministre que depuis longtemps, je crois que le dernier, c'était M. Duplessis, comme je disais. Donc, ça a été très intéressant. Je ne sais pas si les autres qui étaient présents veulent ajouter des choses, peut-être.
Non, tu as bien résumé, Jacques-Lin. Moi, c'était une agréable rencontre, puis on a pu faire valoir nos points au niveau de la BTB West, puis c'était super bien.
On a beaucoup parlé aussi d'Internet et d'autres vitesses.
Oui.
Puis il nous a promis qu'avant la fin de son mandat, on l'aurait.
Oui, c'est drôle parce que, alors là, on ne dira pas ça là, mais il y a des discours, des fois, qui changent, dépendamment avec qui on parle. Mais M. Philippe Gabin, lui, nous avait promis une signature avant 2022, mais effectivement, le premier ministre nous a promis qu'on l'aurait avant 2022. C'est un bon point. Donc, Normand, je pense que tu avais d'autres...
Donc, avec la visite du premier ministre, c'est sûr qu'on vous propose, dans la résolution diverse, de lui faire parvenir une lettre de remerciement pour sa visite. Donc, de préparer une réponse là, qu'on a proposée à M. le préfet pour que notre premier ministre sache qu'on est très heureux de sa visite, de son écoute, puis du temps qu'il a passé avec les élus de notre coin. Donc, je pense que c'est un geste important là, à poser au niveau politique, parce qu'en effet, le dernier qui est passé, je n'étais pas vivant dans ce temps-là, c'est M. Duplessis. Donc, je pense que c'est important là, de souligner ça. Dans rapport et compte rendu, on a pour une première année notre rapport annuel donc de la MRC qui est publié sous un document. Vous l'avez reçu par intranet, je pense que vous aviez accès à ce document-là. Alors, c'est le rapport annuel. Je tiens à souligner l'excellent travail de notre responsable aux communications, Denis Beauregard, qui avait sous sa responsabilité de produire ce rapport-là. Je remercie également la collaboration d'ensemble des départements de la MRC d'Abitibi-Ouest d'avoir collaboré parce que c'est un document, je vous dirais, qui est très complet avec tous les départements. Puis, on a, vous voyez, M. le préfet, avec son beau sourire sur l'écran, qui il y a son petit mot, etc. Donc, je pense que c'est une belle visibilité. Il y aura quelques copies d'impression, mais je vous dirais qu'on veut sauver les arbres aussi. On ne veut pas faire d'impression inutilement. Alors, il est disponible sous façon numérique. Et on va le partager également là, à nos différents partenaires là, pour faire connaître nos activités 2019. Et on va renouveler, bien sûr, là, ce rapport-là chacune des années qui viendront. Ensuite de ça, au niveau de la conférence des préfets, on a appris le départ prochain du directeur de la conférence, des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, M. Bérubé va quitter ses fonctions la semaine prochaine. Il a accepté un nouveau défi à titre d'analyste principal des politiques de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes dans la région de Québec. Donc, on est en période donc de recrutement. Il y aura des entrevues prochainement en souhaitant trouver la personne idéale pour pouvoir prendre la place du poste du directeur au niveau de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, ça fait le tour en ce qui concerne les informations que j'avais à vous donner pour les rapports et comptes rendus.
Merci beaucoup. Dans information, est-ce qu'on avait des documents, des points?
Vous avez dans l'information un bordereau là, qui vous a été déposé. Alors, c'est cette fiche-là que vous avez dans les documents qui étaient disponibles. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, on a Mme Marie-Claude Nicole, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation, qui nous a envoyé donc à M. le préfet une lettre de courtoisie indiquant que de saluer les maires et que de sa grande disponibilité de vous rencontrer selon les besoins. Donc, Madame Nicole nous dit bonjour. Ensuite de ça, nous avons, conformément là, à l'entente pour le programme d'aide pour l'élaboration d'un plan régional de milieu humide et hydrique, on a une lettre de notre ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, qui nous informe que l'aide financière pour un montant forfaitaire de 83 300 est mise à la disposition de la MRC d'Abitibi-Ouest. Il y aura un point d'ailleurs d'information au point aménagement avec M. Grenier à ce niveau-là. Au niveau du ministère du Transport, on nous a informé que les travaux de reconstruction du pont qui enjambe la rivière Maine à Clerval, qui était prévu l'été 2021, ont été devancés. Donc, c'est une bonne nouvelle. On voulait vous la partager parce que la municipalité avait fait des représentations. D'ailleurs, c'était Mme Théberge, la mairesse, à ce moment-là, qui avait fait les représentations avec son conseil municipal. Alors, il nous informe de cette bonne nouvelle-là qu'on veut vous partager. Ensuite de ça, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des points qui se répètent, là, je m'excuse. Alors, ici, on veut partager l'information avec vous que le professeur Ahmed Kouba, qui est de l'Université du Québec, qui est à la forêt de recherche et dans sa ville du lac du Parquet. Alors, on a reçu un communiqué à l'effet que le professeur a été honoré dans le cadre de la rencontre annuelle des dirigeants du réseau de l'Université du Québec. Puis on voulait saluer M. Kouba. Vous recommandez d'ailleurs de faire une mention de félicitations parce que c'est important, les recherches qui se font dans notre réseau. Et lorsqu'on a des professeurs émérites comme ça dans notre secteur qui ont une reconnaissance au niveau provincial, je pense que ça vaut la peine, là, comme élu, de souligner l'excellent travail et la collaboration de M. Kouba. En pensez-vous?
D'accord.
D'accord.
Alors, dans les points information, M. le préfet, ça ferait le tour pour...
Merci. Donc, on irait immédiatement au point de la gouvernance.
Alors, laissez-moi le temps de me retrouver.
Bien sûr.
Alors, au niveau de la gouvernance, il y a certains postes qui sont vacants dans différents comités pour... le suivi de différents dossiers. Donc, dans le secteur nord, il y a des postes à combler au niveau du comité administratif, donc un représentant ou une représentante à nommer parmi les maires, mairesses du secteur de la zone nord. Comité administratif, le comité consultatif multiressources et le comité sécurité, transport et technologie. Et également, suite à une consultation du secteur nord, je peux également confirmer qu'il y aura le comité de développement qui va avoir une modification également. Alors, suite à une consultation avec les gens du secteur nord, j'inviterai donc, secteur nord, je vais nommer là, les municipalités Chazelle, Clermont, Dupuis. Je vais nommer le comité et je demanderai, monsieur le préfet, que vous puissiez valider quelle est la recommandation de la zone nord. Puis après ça, s'il y a résolution à avoir et si vote, il y aura. Alors, j'y vais comme ça. Au niveau du comité...
Okay. Normand, est-ce oui? qu'on pourrait enlever ce qu'il y a à l'écran, par contre, parce que je ne peux pas voir tout le monde dans ce temps-là?
Ça a bien du bon sens.
Parfait.
Alors, comité administratif Zone Nord, il y a une recommandation de la part de la zone. Donc,
secteur Nord, qui se fait le porte-parole du secteur Nord pour une recommandation?
Diane Provost.
Diane, oui, c'est la proposition.
Pour le comité d'administration, M. Jean.
M. Rémi Jean, c'est secondé.
Regardez l'écran, là, il y a un petit pouce en l'air.
Oui, OK. Mme Perrault, merci. M. Guillemette aussi. OK, bon, c'est correct. Excusez. Je pense qu'ils ont tous mis le pouce en l'air. Donc, est-ce que vous avez d'autres recommandations? Non, fait que ça va. Fait que, donc, M. Rémi Jean, qui est nommé au comité administratif, merci Rémi pour ta contribution, puis bienvenue avec nous. Tu vas voir qu'on a beaucoup de plaisir.
Donc, c'est sur recommandation de...
Alors, c'est sur recommandation de Mme Diane Provost, appuyée de Mme Sylvie Perrault. Puis, M. Jean, on va vous demander, est-ce que vous acceptez votre nomination?
Oui, absolument, j'accepte. Merci beaucoup.
Merci, M. Jean. Alors, je poursuivrai avec le comité consultatif multi-ressources, toujours dans la zone Nord. Alors, à vous la parole.
Proposition.
Alors, je propose M. Guillemette.
M. Jean propose M. Guillemette.
J'approuve.
Secondé par Mme Provost. Ou Mme Perrault. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des propositions? Sinon, M. Guillemette, est-ce que vous acceptez la nomination?
Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, oui.
Oui, parfait. Okay, merci. Donc, bienvenue au comité multi. T'as pas sûr d'avoir entendu, j'étais surpris.
Donc, on va poursuivre avec le comité développement. Au niveau du comité développement, c'était M. Rémi Jean qui était là et il nous a informé hier que s'il obtenait le comité administratif, qu'il désirait laisser à un autre collègue le comité de développement. Alors, on doit noter que M. Jean, là, donc, n'est plus au comité de développement. On va prendre les recommandations du secteur Nord, zone Nord, pour développement.
On propose M. Guillemette.
On a une proposition pour M. Guillemette de Mme Perrault.
J'approuve.
C'est secondé par Mme Diane Provost. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Sinon, M. Guillemette, est-ce que vous acceptez?
Oui, ça me fait plaisir.
Merci beaucoup. Donc, M. Guillemette, pour le secteur Nord dans le poste de développement.
Alors, pour terminer la zone Nord, on a le comité sécurité, transport et technologie. Alors, on va entendre les recommandations du secteur zone Nord.
Je propose M. Lévesque.
Il y a une proposition de M. Lévesque de Normetal.
J'appuie.
Appuyé par Mme Perrault. Donc, M. Lévesque, est-il présent? Non, hein?
M. Lévesque n'est pas présent, mais il avait signifié, il avait la rencontre, qu'ici, il était proposé qu'il acceptait. Alors, on pourra confirmer à M. Lévesque qu'il a été proposé. Je ne sais pas s'il y a d'autres propositions.
Au revoir. Donc, M. Lévesque au poste technologie, sécurité.
Proposeur, on a Sylvie Théo et...
Rémi Jean. Alors, on termine les nominations des comités pour la zone sud. Il y a un poste qui est vacant. Alors, c'est pour le comité de développement. Il y a eu également consultation pour les élus de la zone sud. Alors, on va attendre, M. le préfet, les recommandations de la zone sud pour le comité de développement.
Je propose M. Alain Gagnon, rapide danseur.
M. Bouc propose M. Alain Gagnon, rapide danseur, secondé de M. Léo Plourde. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Non. Est-ce que M. Gagnon accepte la nomination?
Oui.
Merci, M. Gagnon. Bienvenue au comité de développement. Donc, dans la gouvernance, est-ce qu'on avait d'autres points? Je crois que oui. Hein?
Dans la gouvernance... Ça va venir dans les prochaines rencontres. On doit nommer un élu responsable du dossier des aînés pour l'élaboration de la démarche MADA. Alors, si jamais il y en avait parmi vous qui auraient de l'intérêt, peut-être nous communiquer Julie Mainville, qui est agente de développement responsable du dossier MADA. Alors, la responsabilité de l'élu, en réalité, pour les dossiers aînés, c'est tout simplement de faire rapport au conseil d'administration en collaboration avec Mme Mainville, avec nous comme direction également, du développement, d'élaboration de la démarche MADA et de participer aux rencontres pour la démarche MADA qui est plus MRC. C'est sûr qu'elle ne participerait pas, cette personne-là, à toutes les démarches MADA parce qu'il y en a plusieurs sur notre territoire, là, mais de faire l'évolution, voir le rapport d'évolution au conseil. Alors ça va venir là, dans les prochains, peut-être au prochain conseil, on pourra nommer quelqu'un. On voulait vous le souligner si vous avez de l'intérêt ou des questions ou quoi que ce soit par rapport à ça. On vous invite à nous communiquer.
Merci. Est-ce que ça termine le point gouvernance?
Il y a dans le point gouvernance la délégation de l'engagement au Fonds Région Ruralité au comité administratif. Je laisserai Mme Micheline Trudel, directrice générale adjointe, pour ce point-là.
D'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Dans les faits, c'est que notre entente de Fonds Région Ruralité permet à ce que le conseil d'administration délègue au comité administratif l'utilisation de l'enveloppe du Fonds Région Ruralité. Alors, ce que l'on vous propose ce soir, c'est que pour certaines dépenses ou certains petits contrats qui sont de moins de 10 000 $, de confier la possibilité au comité administratif d'utiliser l'enveloppe du Fonds Région Ruralité. Alors, ça permet, là, dans les faits, là, d'autoriser des dépenses là, au comité administratif et au conseil d'administration.
Madame Trudel, dans ce fonds...
Oui, je vous écoute.
Oui, dans ce fonds de région ruralité, là, c'est quoi le montant total qu'il y a dans ce fonds-là?
Dans les faits, cette année, on a le volet 2, qui est le volet là, habituel là, du ancien fonds de développement des territoires. Okay? Alors, ce sont les enveloppes là, qui sont dévolues pour les prévisions budgétaires. Et dans les faits, les sommes là, qui pourraient éventuellement être allouées dans ces fonds-là, ça concerne beaucoup le développement. Alors, l'enveloppe annuelle, elle est autour de 1 600 000. Mais elle est toujours, disons, je vous dirais, engagée là, à même les fonds là, des prévisions budgétaires.
OK, merci.
D'autres commentaires? Ça prend une résolution, Normand? Micheline?
Oui, s'il vous plaît.
Peux-tu proposer? Oui, Mme Linda Lafrenière, M. Léo Plombe, merci. Ça termine le point de gouvernance, M. Lagrange?
Oui, on peut passer au prochain point.
Parfait. Donc, évaluation foncière avec Mme Trudel.
Alors, vous avez reçu sur l'intranet là, un petit résumé du dossier là, que je vais vous présenter ce soir. Alors, ce qu'on a à la rubrique évaluation, ce dont on veut vous informer ce soir, c'est notre contrat en évaluation foncière. Alors, notre contrat avec un évaluateur externe qui est aussi un contrat à action partagée. Alors, c'est un contrat, une partie des tâches est dévolue à l'évaluateur et une bonne partie des tâches est aussi dévolue à notre service d'évaluation, là, à notre personnel. Alors, actuellement, nous sommes sous contrat avec la Société d'analyse immobilière Abitibi. Et notre contrat actuel est un contrat de 6 ans. Les années du contrat sont de 2015 à 2020. Donc, notre contrat va prendre fin le 31 décembre. Alors, quelles sont actuellement les activités qui sont sous ce contrat? Alors, vous avez la tenue à jour, des rôles d'évaluation, c'est-à-dire de faire l'évaluation des permis, de faire les changements suite à des contrats de vente, des contrats de cession. Dans ce contrat-là, il y a aussi là, tout ce qui entoure le dépôt des rôles triennales d'évaluation, les reconductions des rôles, les équilibrations, également le maintien d'inventaire, c'est-à-dire les visites là, qui sont obligatoires à tous les 9 ans. Alors, ça fait déjà quelques années là, qu'on a des contrats avec la société d'analyse. Et pour ceux qui sont là depuis plusieurs années, chaque fois qu'on voit un appel d'offres, hein, évidemment, les firmes d'évaluation se font rares au niveau municipal et souvent on a un seul soumissionnaire. Alors, il n'y a pas nécessairement de mise en concurrence là, dans ces contrats-là. Particularité, je vous fais une petite parenthèse et je vous informe au niveau de la Fédération québécoise des municipalités, qui est une fédération au service de ses membres. Alors, la fédération a développé au cours des dernières années plusieurs services pour ses membres, qu'on pense à l'assurance, à la mutuelle des municipalités du Québec, aux services d'ingénierie, les services de ressources humaines, le service juridique. Et plus récemment, ils ont fait l'acquisition de la firme informatique Corporation Informatique Bellechasse, de laquelle là, plusieurs la majorité de nos municipalités utilisent actuellement les logiciels. Alors, pourquoi ils en ont fait l'acquisition? C'est pour développer un logiciel. Ils ont aussi fait l'acquisition d'une firme d'évaluation pour ajouter à l'offre de services aux municipalités, le service d'évaluation foncière. Alors, ce service d'évaluation foncière que la Fédération québécoise des municipalités veut offrir, il se déploie là, de diverses façons. Alors, ça peut être un service exclusif pour une MRC qui n'a aucun employé à l'intérieur de sa municipalité qui travaille en évaluation, ou ça peut être un peu aussi en service partagé, comme nous, on agit actuellement là, avec nos employés et une firme externe. Alors, l'FQM a fait l'acquisition de CIB et l'a transféré en coopérative d'informatique municipale. Alors, cette coopérative-là offre actuellement tous les services de logiciels, tous les services d'évaluation. Alors, ce qu'ils ont comme professionnels à leur actif, plusieurs professionnels en évaluation, des évaluateurs, des techniciens en évaluation pour tout ce qui concerne le résidentiel, le commercial, l'institutionnel. Ils ont une grande équipe technique au niveau de tous les services informatiques qui sont nécessaires pour soutenir ces services. Ils sont également actuellement au niveau de l'évaluation, ils sont présents en Abitibi-Témiscamingue. Alors, souvent, ce qu'on voit, c'est que les fédérations ou les unions vont offrir des services, mais c'est moins présent là, dans les régions un peu plus éloignées. Alors, la FQM, via la CIM, est actuellement présent à la Vallée de l'Or et au Témiscamingue. Et une des grandes tâches là, à laquelle là, s'est dévolue l'équipe de CIM, c'est de développer un logiciel adapté à l'évaluation municipale et à la fine pointe de la technologie. Alors, dès qu'il y a une modification à la loi qui vient interférer dans la façon de traiter différentes données. Alors, ils sont toujours là, avant-gardistes à ce niveau-là. Façon de travailler aussi de CIM, une grande utilisation du numérique. Alors, l'abandon de tout ce qui est le papier, la transmission, prendre les données à la main par écrit et par la suite les retranscrire dans les systèmes. Eux, ils utilisent beaucoup là, la tablette informatique et façon là, de développer et d'actualiser les services. C'est sûr que nous, comme MRC, ce que nous avons fait, nous avons demandé une offre de service à la FQM. Alors, ça avait été discuté au niveau du comité administratif et évidemment, nous avions tout avantage à demander une offre de service. Nous avons reçu l'offre de service. Nous avons analysé l'offre de service. Cette offre de service-là a été traitée lors de deux comités administratifs. Alors, le comité administratif du 19 août, où nous avons regardé les éléments un peu plus techniques, les éléments de fonctionnement, les impacts que ça peut avoir sur notre service d'évaluation. Et lors du dernier comité administratif du mois de septembre, le comité administratif s'est penché plus largement sur le volet financier. Alors, cette offre de service-là, c'est une offre de service qui, au niveau de la FQM, eux la qualifient comme une offre de service au coût. OK? Alors, sans recherche de profit ou de bénéfice. Toutefois, eux, ce qu'ils incluent aux honoraires, c'est ce qu'ils qualifient, eux, une contribution à une participation à la mission. Alors, ils ont les honoraires et en-dessus de ça, ils ajoutent une participation pour leur permettre de poursuivre le développement et de rester avant-gardiste là, au niveau de l'évaluation. Comment cette offre de service-là a été préparée? Nous, comme MRC, on a reçu un questionnaire. Alors, on a dû un questionnaire préétabli par CIM qui demandait quelles étaient nos responsabilités, nos compétences, notre personnel, pour permettre à CIM de savoir exactement ce que nous on fait et quelles seraient à eux leurs responsabilités et leurs rôles. Il y a eu aussi plusieurs rencontres virtuelles et des échanges téléphoniques là, entre la MRC et CIM. Particularité de cette offre de service, cette offre de service ne peut pas être mise en concurrence. Alors, ce que ça veut dire, ça implique que si on demande une offre de service à la CIM, on ne va pas en soumission. Okay? Parce que dès qu'on va en soumission, CIM retire son offre de service. Alors, ils ont un décret spécial qui les autorise à négocier directement avec les organismes municipaux. Ça, c'est très rare. Autre chose, alors c'est ça. Alors, suite aux deux analyses, les deux réunions là, du comité administratif, l'offre de service, c'est un contrat de 6 ans également, OK? On a fait aussi l'analyse à savoir est-ce qu'on devrait aller 3 ans, 6 ans, parce que vous savez, les triennales, ce sont des périodes de 3 ans. Alors, ce qui a été demandé, c'est une offre de service pour 6 ans également. Alors, cette offre de service, elle se chiffre à 1 401 763 pour 6 ans. Alors, ça comprend toute la tenue à jour qui est de la responsabilité d'évaluateur, tout le maintien d'inventaire là, pour ceux qui devront être faits sur la période de 6 ans, les équilibrations, les reconductions. Et les taxes s'ajoutent à ce montant. Effectivement, on a une recommandation du comité administratif et la recommandation du comité administratif, elle est positive. Elle est faite d'accepter cette offre de service de corporation, de coopérative informatique municipale. Alors, en gros, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des membres du comité administratif qui voudraient intervenir ou préciser des choses peut-être là, que je n'ai peut-être pas pensé là, de vous livrer.
Ben, je peux vous dire, en tout cas, moi, pour avoir vu des documents, que le travail a été fait avec une grande rigueur. Puis, je trouve que c'est une excellente entente. Je félicite l'équipe de la MRC et Micheline en particulier pour ces négociations-là. Vraiment, là, j'ai été surpris. Je pense que les autres membres du comité aussi pourront en dire autant. Donc, c'est certain que nous, au comité administratif, là, on vous le recommande très, très fortement. Je ne sais pas si Alain, Yves...
Est-ce que tu comprends? C'est plus avantageux à eux autres par rapport à l'autre qu'on avait?
Là, c'est sûr qu'on ne peut pas aller à un appel d'offres. Donc, on ne peut pas savoir, mais si on compare un peu les prix de l'ancien appel d'offres versus aujourd'hui, c'est encore très avantageux pour nous.
OK, c'est bien.
Si vous êtes d'accord, on en ferait la proposition pour aviser la FQM.
Je propose.
Proposé par M. Clich et secondé par Mme Lafrenière. Merci tout le monde. Quand on sera tous ensemble, on sera peut-être plus en mesure de vous démontrer tout ça. Mais encore une fois, félicitations à Micheline et l'équipe. Là, ils ont fait un travail qui est remarquable dans ce dossier.
Je voudrais peut-être juste rajouter, Jacqueline, le personnel de la MRC, parce que vous comprenez que c'est quand même des gros changements pour l'équipe. Alors, ils vont au 1er janvier prochain, il y aura changement de firme d'évaluation. Alors, l'équipe va être rencontrée demain matin. Et aussi, là, on s'apprête également à contacter demain matin, là, M. Maillet, effectivement, là, pour l'aviser de la décision de la MRC.
Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions?
Oui, j'ai une question, Jacqueline, concernant nos employés, nous autres, de la MRC. Y a-t-il une période de formation pour eux autres qui va être prévue?
Ça, probablement qu'il n'y aura pas de changement pour vous dans vos municipalités, OK? Alors, parce que c'est toujours nos mêmes inspecteurs qui vont passer chez vous pour le résidentiel, OK? Mm-hmm. Et en ce qui concerne les relations de vos directions générales avec notre service, nous, notre personnel ne change pas. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que dans l'offre de service, la FQM, via la coopérative d'informatique, va faire l'embauche de personnel sur notre territoire, OK, qui vont rendre certains services là, au niveau du maintien de l'inventaire. Alors, c'est aussi peut-être qu'on pourrait qualifier ça d'un gain, là, peut-être, là, au niveau là, de récupérer là, du travail qui va se faire en Abitibi-Ouest.
Mais principalement, ma question elle provient sur le fait que ma directrice générale, à ce moment-là, elle va avoir une implication de formation pour être capable de suivre la nouvelle méthodologie ou whatever? Non?
Non. L'intervention de l'évaluateur, là, c'est vraiment pour vos municipalités, là, il n'y aura pas de changement. Là.
C'est beau.
C'est vraiment au niveau des employés de la MRC.
C'est bon. OK. Merci.
Ça allait pour tout le monde?
Oui.
Oui.
Parfait. Micheline, en évaluation, est-ce que ça complétait?
Pour l'évaluation, oui.
Merci. Donc, on passerait au point de développement. Normand?
Alors, au niveau du point de développement, on a une recommandation du comité d'investissement du 19 août dernier qui recommande de l'aide financière, donc j'y vais, ces jeunes promoteurs Donc, c'est trois projets qui ont été demandés et recommandés. Alors, on recommande pour jeunes promoteurs d'accorder une aide financière non remboursable de 5 000 aux promoteurs dans le fonds jeune promoteur afin de lui permettre de démarrer son entreprise. Et l'entreprise, l'investissement généré de 113 000 Alors, ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est d'accorder une aide financière non remboursable de 2 500 aux promoteurs dans le même fonds, qui est jeune promoteur, afin de permettre d'acquérir des parts de l'entreprise et d'effectuer de nouveaux investissements. L'investissement généré est de 3 061 000, donc un projet quand même d'importance, qui va générer 30 emplois. Dans un autre dossier, on recommande également une aide financière non remboursable de 2 500 pour un autre promoteur dans ce même projet-là qui veut acquérir des parts de l'entreprise et effectuer les nouveaux investissements. Donc, de la même ampleur, là, c'est l'investissement généré le même pour les deux promoteurs. Alors, on vous en fait la recommandation. Notre conseiller au développement, M. Matt, a fait l'analyse avec le comité, ainsi que notre directeur, Éric Fournier, du développement, qui vous en fait la recommandation. Alors, on aurait besoin d'une résolution du conseil ce soir pour autoriser ces trois montants d'aide financière là.
Normand. Okay, M. Côté. Oui.
Normand.
Monsieur Godbout.
Je veux juste vérifier le 2 et le 3e membre. Ces deux personnes-là font partie de la même entreprise, mais le 2500, c'est pour acquérir des parts, c'est ça?
Exactement, chacun des
la même entreprise.
C'est ça. Okay. C'est deux entrepreneurs différents, mais pour le même projet, exactement.
OK.
Bon, j'avais une proposition de M. Côté, secondée par Mme Lafrenière, que j'avais vue. Ça allait pour tous, oui?
Alors, point d'information maintenant, au niveau du Fonds d'économie sociale, l'équipe développement informe de la date limite du projet pour les fonds d'économie sociale est fixée au 30 octobre. Donc, d'ici le 30 octobre, les organismes d'économie sociale de l'Abitibi-Ouest qui se qualifient dans le fonds peuvent présenter donc un projet pour recommandation donc au comité développement. Là, donc, d'ici le 30 octobre, on va recevoir. Après ça, il y aura analyse au comité par la suite, recommandation, bien sûr, à la table des maires. Donc, point d'information important. L'information va être également être acheminée dans l'ensemble des municipalités à l'effet que du dépôt de projet là, jusque d'ici le 30 octobre 2020. Ensuite de ça, on a une offre de service pour le service développement également. C'est pour la démarche municipalité amie des aînés. On a fait une demande de service à Léger Marketing, Léger qui fait les sondages de Léger, qui vont pouvoir sonder notre territoire pour les démarches. La démarche MADA, très particulièrement pour les municipalités qui font la démarche accompagnée par la MRC et également pour l'ensemble de notre territoire pour notre démarche MADA à nous. Alors, on vous recommande d'accepter l'offre de service de 24 900 $ donc pour faire les sondages. Il y a des sondages téléphoniques, sondages en ligne également qui vont être faits pour nous remettre un rapport par la suite qui pourra être utilisé dans les différents comités pour pouvoir faire l'analyse des besoins sur notre territoire par rapport à ce sondage-là pour intégrer dans les politiques municipalités amies des aînés. Alors, c'est un sondage qui a été fait auprès des citoyens de la MRC qui va être fait dans les prochains mois.
Une proposition de Mme Perrault, secondée de M. Gagnon. Merci.
J'aurais une question, M. le préfet.
Allez-y, Mme la première.
M. Legrand, vous avez dit que ce sondage-là était principalement pour les municipalités qui faisaient affaire avec la MRC, mais les municipalités ou, exemple comme nous, la ville de Mécanique qui ne fait pas affaire avec la MRC, est-ce qu'on va avoir droit le droit de voir ce rapport-là?
C'est sûr que le rapport est financé à l'aide de l'aide financière qu'on reçoit du ministère, du secrétariat des aînés. Alors, à ce niveau-là, je ne peux pas vous assurer que vous aurez droit d'avoir l'information parce que les budgets sont vraiment réservés pour les municipalités qui ont pris une résolution de faire la démarche avec la MRC d'Abitibi-Ouest. Mais au niveau global, il y aura peut-être certains éléments qui, pour l'ensemble de la MRC, qui pourraient être partagés. Mais je vous dirais que je vais le prendre en note puis je pourrais valider avec Mme Mainville, là, qui est responsable du dossier, là, de ce dossier-là, voir quelles sont les possibilités pour que vous puissiez avoir accès à certaines informations.
Vous comprendrez, M. Lagrange, que c'est, je trouve que c'est assez spécial parce que même si on ne fait pas partie des municipalités qui font affaire avec la MRC, il faut quand même vous regarder cette politique-là régionalement. Donc, on fait partie de la région, là. Alors, vous comprendrez que moi, je trouve que c'est assez... excusez le terme, là, mais c'est assez ordinaire si on n'a pas accès à ces sondages-là. Là.
OK. Je vais vous expliquer un petit peu au niveau technique comment on a présenté à l'EGÉ la demande pour faire le sondage. Il y a des questions spécifiques qui vont être posées dans les municipalités qui ont été identifiées comme étant dans la démarche MADA. Alors, vous comprendrez qu'on a reçu de l'aide financière de la part du secrétariat pour ces municipalités-là qui ont accepté d'être accompagnées par la MRC. Alors, les sous, on les prend pas là, dans n'importe où. Là. C'est vraiment dans le budget dédié pour ces municipalités-là. Toutefois, comme je vous le dis, il y a des frais supplémentaires pour les municipalités visées. Puis au niveau global, il y a des questions qui vont être posées plus au niveau du territoire, au niveau global, qui là, ben, on ne pourra pas dire si ça vient de Macamique ou si ça vient de Hautier ou tout ça. Ça va être d'aspect plus régional à ce moment-là. Ça faisait partie aussi des conditions de dire, ben, si vous embarquez dans la démarche, la MRC va pouvoir vous accompagner dans cette démarche-là. Et ça fait partie de l'accompagnement qui était proposé à ce moment-là dans la démarche au niveau de l'évaluation, sondage et tout ça.
Merci.
Puis, si besoin, écoutez, moi, je suis très ouvert à qu'on puisse se reparler avec Mme Mainville puis de voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour Macamique puis est-ce que c'est possible de joindre ou pas la démarche. Okay.
Mais ma question n'est pas juste pour Macamique, parce que je pense qu'il n'y a pas juste Macamique qui n'a pas adhéré, mettons, qu'on a fait notre propre demande auprès de MADA. Là. Ma question est, c'est que MADA, régionalement parlant, mettons avec la MRC, on va avoir une politique, puis on nous demande de se coller à cette politique-là, mais si on n'a pas les informations...
Mais vous allez avoir accès à l'information de la politique MADA de la MRC parce qu'elle va être adoptée par vous à la table des maires. Donc, les informations vont être déposées à ce niveau-là pour l'ensemble. Mais où je dis que c'est particulier, c'est que comme on a quand même plusieurs municipalités qui ont dit oui à ce qu'on puisse les accompagner, donc on a reçu un montant d'à peu près 8 000 $ par municipalité qui ont adhéré avec la MRC. Donc, c'est ces sous-là qu'on va utiliser pour faire l'accompagnement, le sondage et tout ça. Là.
Je comprends bien ça, M. Lagrange, merci.
Mais au niveau global, je pense qu'on va être capable de vous donner de l'information qui appartient à l'ensemble de la MRC. Vous pourrez sûrement vous en inspirer là, pour votre propre politique, je le souhaite à tout le moins. La collaboration, la porte est ouverte à la collaboration de notre côté, c'est sûr.
Parfait, merci beaucoup.
Merci.
Autre point, normal dans le développement, je crois.
J'avais un autre point, je reviens à mon ordre du jour. Oui, espace AO. J'ouvre mon document ici pour... bien vous le présenter. Alors, vous savez qu'avec la COVID-19, la MRC de Abitibi-Ouest a joint plusieurs intervenants économiques sur notre territoire pour la mise en place de la plateforme d'achat local Espace à eau. On a fait ça, je vous dirais, assez rapidement en collaboration avec la MRC, la SADC, la Chambre de commerce et plusieurs autres partenaires également qui se sont joints. Alors, notre participation financière de la MRC, on nous demande la possibilité de réinjecter des sous pour la prochaine phase d'Espace à eau. Alors, ça représente un accompagnement, c'est 15 000 $ pour faire l'accompagnement des entreprises au niveau du commerce électronique. Alors, c'est la recommandation qu'on vous fait. On souhaite toucher 79 entreprises. Donc, c'est jusqu'à maintenant, c'est des entreprises qui sont inscrites au 8 septembre 2020. Et il y en aura donc sûrement d'autres entreprises à ce niveau-là. C'est les entreprises de l'Abitibi-Ouest. Et c'est supporté par la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Alors, l'aide financière qui est utilisée à ce moment-là, c'est vraiment avec la Chambre de commerce qu'on subventionne pour donner de la formation. Donc, il y a eu le volet des webinaires qui ont été donnés dans la stratégie. Il y a eu 10 heures d'accompagnement dans le volet B également. Donc, valeur totale du projet, plus de 42 000 $ pour une participation financière de la MRC de 15 000 $ À ça, s'ajouterait une contribution également pour un programme qu'on voudrait implanter en Abitibi-Ouest, encore en collaboration avec la Chambre de commerce. C'est un programme de fidélisation qui s'appelle Freebie. Alors, c'est pour attirer des clients, les inciter à revenir dans chacune des entreprises locales, puis de créer une espèce de réseau. Cette carte de fidélité-là permet donc à chacun des clients de cumuler des points, récompenses dans le commerce qu'ils visitent. Ça ressemble un peu à, pour ne pas les nommer, Canadian Tire, avec l'argent Canadian Tire. Quand tu achètes chez Canadian Tire, tu peux cumuler des sous et racheter chez Canadian Tire, donc avec les sous Canadian Tire. Alors, c'est un principe qui est similaire, qui permettrait donc de fidéliser les gens puis de racheter dans les commerces. Un peu différent d'un commerce où tu peux cumuler des points puis aller les utiliser dans un autre commerce. Alors, Freebie, lui, c'est vraiment dans le commerce où tu vas, tu cumules des points puis ça t'encourage à revenir. Il peut y avoir des promotions que l'entrepreneur pourrait faire, exemple, si vous venez de telle journée, ça peut être un 2 pour 1 pour tel produit ou c'est des promotions qui sont possibles d'être faites, donc d'être établies là, par les entreprises. Les entreprises de la MRC d'Abitibi-Ouest sont invitées à des rencontres d'information actuellement par la Chambre de commerce pour présenter ce produit-là. C'est sûr qu'il y a des frais par rapport à ça, puis pour encourager nos entreprises à adhérer puis à connaître ce projet-là, on offrirait l'abonnement gratuit pour les entreprises. Ça coûte 29 $ par mois pour les entreprises d'ici le 31 décembre 2020. Par la suite, ça va être 99 $ par mois pour une entreprise pour continuer à adhérer à ce programme de fidélisation-là. Alors, nous, ce qu'on vous recommande, c'est un investissement de 4 500 $ de la MRC qui serait versé à la Chambre de commerce dans ce projet-là pour aider à notre économie régionale, donc de mettre en place ce programme-là pour pouvoir là, aller de l'avant à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce projet-là?
Oui, comment ça s'appelle? J'aimerais ça que tu me l'épelles, ce nom-là. Comment tu appelles ça, le FIBI?
Alors, c'est Free. Je vais vous le...
Épelle-moi-le!
F-R-E-E-B-E-E-S.
OK.
Alors, c'est comme abeille gratuite, là.
Alors, c'est un programme de fidélisation.
C'est un programme qui est implanté dans d'autres régions du Québec. D'ailleurs, le promoteur de ce programme-là, c'est une personne qui est originaire de, si je ne me trompe pas, c'est de Rouyn-Noranda. En tout cas, c'est de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un monsieur Villeneuve qui nous avait approché il y a à peu près un an. Et on trouvait le concept intéressant. Puis là, on est revenu à la charge, considérant que le timing est vraiment, c'est le bon moment là pour pouvoir lancer cette campagne-là. Parce que l'achat local, on le sait, c'est important. On le préconise d'ailleurs, on en fait la promotion. Et ça permet justement d'attirer les clients. Juste avant Noël, en plus, ça peut être une belle promotion de dire, ben vous avez votre carte, vous venez chez nous, vous dépensez, vous cumulez des rabais ou des dollars pour réutiliser chez nous quand vous allez revenir. Alors, c'est vraiment là pour le client, la carte, elle est gratuite. C'est vraiment là chacun des entrepreneurs qui, tu sais, on veut, l'objectif, c'est de faire connaître le produit, puis après ça, que l'entreprise voit le bénéfice qu'il y a de pouvoir contribuer, puis de décider par la suite, après 6 mois ou 1 an, de dire, ben oui, je poursuis, puis je prends mon abonnement, puis il y a tout le volet aussi là, d'accompagnement de la compagnie Freebies là, qui... fait de l'accompagnement directement auprès des entrepreneurs, des entreprises locales. Alors, nous, cette plateforme-là, c'est pas la MRC qui la gère, c'est pas la Chambre de commerce non plus, c'est vraiment la compagnie là qui fait affaire avec les différentes entreprises locales. Et à titre d'exemple, au Témiscamingue, ça fait 1 an que la MRC du Témiscamingue a contribué justement à l'implantation de ce projet-là. Et les commentaires sont très bons. Il y a une fidélisation. Il y a quelques entreprises qui ont commencé, puis tranquillement, bien, ça fait son petit chemin. Et il y a d'autres MRC de notre région également, de l'Abitibi-Témiscamingue, qui évaluent la possibilité donc d'implanter ce service-là pour ce programme de fidélisation-là dans les prochaines semaines.
Donc, ça va tout le monde? Oui.
Non, question. Question. Question, M. Guillemette. Je peux y aller?
Oui, allez-y. Oui.
Oui. Je veux juste savoir, le premier plan, c'est de ce que je comprendrais, là, c'est que c'est un groupe d'entrepreneurs qu'on soutient dans le procédé. Puis la carte en question de fidélité, elle a l'avantage pour chacun des entrepreneurs qui sont impliqués dans là-dedans. À ce moment-là, il y a une accumulation pour tous les entrepreneurs. Si je vais vous donner un exemple, je vais pour au commerce X. Après ça, je vais acheter au commerce Y. Je ramasse des points sur les deux. Puis je m'en vais sur Z, acheter. Je peux utiliser les points. C'est ça que tu m'expliques?
Si je vais chez X, je vais pouvoir utiliser les points que j'ai cumulés chez X seulement. Ça ne se cumule pas pour les autres commerces. Alors, chaque entreprise qui sont membres, vous allez cumuler, mais pour chacun des commerces, c'est un peu l'avantage par rapport à d'autres programmes qui, tu sais, il y en a qui disaient, je vais acheter quelque chose d'important à telle place, un bon montant, puis je prends mes sous que j'ai ramassés, puis je vais l'utiliser ailleurs. Ben, c'était pas très motivant pour les entrepreneurs de dire, ben là, tu sais, moi, je donne un pourcentage de rabais pour ramener du monde, puis ils vont acheter ça ailleurs après avec leur dollar qu'ils ont ramassé. Là. Tu sais, exemple, Bonnie Dollar. Non, mais c'est ça.
Je comprends. C'est juste que c'était le principe, parce que je voyais le principe communautaire au niveau des entreprises dans ce sens-là. Là. Mais c'est correct. Là. Le deuxième point que je voulais poser, est-ce que si on fonctionne par web pour un achat, ceux qui ont des, je sais pas, nomme le commerce X a une page... d'achat en ligne, ça s'applique à ce moment-là aussi?
Je n'ai pas le détail, mais selon moi, oui, parce que sur la carte, il y a un numéro de membre et tout ça. Mais okay. Là, c'est dans le détail que je ne pourrais pas vous confirmer. Là. Ça serait validé. Parce qu'en effet, dans l'accompagnement, il y a la mise de commerce en ligne également, là, qui est dans le premier projet qu'on a déjà contribué. Là, le 15 000 $, ça, c'est notre contribution qu'on a déjà fait là, dans le programme Espace à eau. Ce soir, c'est un investissement de 4 500 $ qu'on vous recommande là, pour justement favoriser l'intégration. Puis, dans l'estimé rapide qu'on a fait, il y a déjà là une compagnie qui s'est engagée au niveau d'une entreprise locale à soutenir cette initiative-là. Puis, tous ces employés vont avoir déjà des sous, de l'argent prépayé sur leur carte. Alors, il y a un investissement quand même intéressant pour des compagnies, là. Je donne comme exemple, la MRC d'Abitibi-Ouest pourrait dire, ben moi, j'offre ces cartes-là à mes employés, puis je verse là-dessus 100 $ à dépenser dans n'importe quelle entreprise de l'Abitibi-Ouest comme cadeau de Noël, exemple. Ben ça, avec Flubi, c'est possible de le faire. Alors, ça permettrait aussi, de façon originale, d'encourager notre économie locale en incitant des organismes de dire, ben achetez des cartes, puis donnez ça, puis mettez des sous là-dessus pour vos employés, pour offrir pour Noël. Pour... Alors, ça, c'est pour lancer. Il y a déjà une entreprise, là, qui un gros employeur de l'Abitibi-Ouest qui est prêt là, à investir dans l'économie en disant, ben moi, j'embarque, puis je vous dirais que c'est... un engagement là, qui avoisine les 100 000 $ là, qu'ils veulent injecter directement. Fait que c'est super intéressant parce qu'on peut justement offrir une carte prépayée là, qui peut être échangeable dans toutes les entreprises participantes de l'Abitibi-Ouest. Ça, c'est un exemple. Puis, il y a beaucoup d'autres exemples qui pourraient s'appliquer. Oui, M. Godbout. Non.
Oui, les entreprises, tu disais là, tantôt qu'ils vont être approchés ou il va y avoir une genre de campagne pour les leur expliquer un petit peu le fonctionnement de ce projet-là. Ça va se faire quand, ça? Tu sais-tu?
Il y a des invitations déjà qui ont été lancées. Il y a des rencontres qui se sont tenues aujourd'hui, d'ailleurs. Là, je sais qu'il y a 3 ou 4 groupes qui ont été faits pour faire la présentation. Alors, ça se fait en septembre, là. Et ceux qui n'auront pas été sollicités puis qui en entendent parler, ben, il n'est jamais trop tard, on peut intégrer le programme. Là, aussitôt qu'une entreprise est prête, elle peut intégrer le programme sans problème.
Puis la carte de fidélisation, c'est l'entreprise qui nous la donne ou comment ça fonctionne?
Normalement, c'est l'entreprise là, qui va la remettre à ton premier achat, par exemple, là. Ils vont t'offrir la carte gratuitement, puis puis tu n'as pas besoin d'avoir une carte par entreprise, là, ta carte va être bonne dans toutes les entreprises participantes. Mais ça se peut que toi, tu aies la carte MRC d'Abitibi-Ouest, puis quelqu'un d'autre va avoir la carte de la ville de la Sarre. Je donne ça comme exemple. Ou il va y avoir des cartes qu'on ferait faire Espace AO pour faire connaître Espace AO. Là.
OK.
Mm-hmm. C'est bien.
Normand? Je voudrais peut-être juste ajouter que ces deux montants-là, le premier montant de 15 000 et le deuxième montant de 5 000, seraient pris à même là, notre fonds de contribution là, à l'entrepreneuriat qui est directement lié là, au fonds région ruralité.
Oui, merci Micheline.
Tout le monde, parce que ça va pour tout le monde, avec une proposition de M. Goulet. Oui. Regardez M. Guillet. Merci. Ça termine le point de développement?
J'ai un dernier point, M. le maire, M. le préfet, qui va s'ajouter. Puis là, je partage mon écran. C'est quel point je continue par ici. Alors, concours saveur locale. Alors, pour faire la promotion de nos produits régionaux, notre équipe au niveau du développement de la MRC, développement économique, lance un concours saveur locale. Alors, la MRC d'Abitibi-Ouest invite à célébrer la richesse de son territoire et de ses produits locaux en organisant un concours où la créativité de nos restaurateurs sera mise à l'honneur. Pour ce concours, les restaurateurs de la MRC d'Abitibi-Ouest seront invités à concocter une entrée exclusive mettant en valeur les produits. Et le concours se tient, là, les dates sont indiquées du 8 au 10 octobre et du 15 au 17 octobre 2020. Alors, on a lancé l'invitation à tous les restaurateurs de l'Abitibi-Ouest. Et pour cette première édition, il y a 3 restaurants qui ont accepté de relever le défi. Alors, il y a la Brute du coin de la Sarre, le restaurant Le Spot de Macamic et le restaurant Le Poste de Val-Saint-Gilles. Alors, le critère est de mettre en place une entrée avec les produits régionaux abordables, donc permettant à monsieur, madame, tout le monde de faire la tournée des trois restaurants et de coter, donc d'avoir une évaluation, d'appréciation pour qu'on puisse déterminer quel restaurant est le grand gagnant. Alors, il y aura une participation citoyenne qui va être faite, mais il y aura une participation également d'un jury qu'on veut mettre en place. Alors, c'est pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui. Alors, pour la mise en place du jury, on aurait besoin d'un élu, donc d'un maire ou d'une mairesse, qui voudrait faire partie du jury, qui aura le privilège de faire la tournée des trois restaurants, puis de participer donc à l'évaluation de ce concours-là. Question d'éthique. Malheureusement, les maires de La Sarre et de Val-Saint-Gilles, ainsi que la mairesse de Macamic, on aimerait mieux que vous ne fassiez pas partie du jury.
Je m'objecte.
Moi aussi.
Madame la mairesse de Macamic, désolée. Donc, mais ça ne vous empêchera pas de participer comme citoyen.
Alors, c'est bon.
Je vous invite tous, d'ailleurs. Alors, d'ici la fin septembre, on aimerait donc identifier un élu, donc un maire ou une mairesse, qui aurait le goût de faire la tournée des trois restaurants. La MRC a prévu un budget pour nos trois juges, donc les frais pour l'entrée, le déplacement, tout ça, sont couverts pour encourager la participation, parce qu'on part de Val-Saint-Gilles, Macamic, La Sarre, donc pour pouvoir faire donc l'analyse par la suite avec deux autres collègues, un citoyen qui est à nommer prochainement, puis une enseignante au secteur professionnel en cuisine qui a accepté notre invitation comme membre du jury également. Alors, je vous invite à vous manifester si vous avez le goût de faire la tournée. S'il y en a plus qu'un qui m'envoie un courriel d'intérêt, ben ça sera fait tirage au hasard sous la surveillance Micheline, Normand et Denis Incorporé pour qu'on puisse tirer au hasard le ou la chanceuse qui pourra déguster et porter son évaluation. Alors, d'ici le début de la semaine prochaine, j'attendrai votre intérêt, envoyez-moi ça par courriel directement ici à la MRC. Et puis, disons que mercredi prochain, ça pourrait être un délai raisonnable, là, d'ici le 23 septembre. Je vous invite à vous manifester, puis par la suite, on pourra vous confirmer qui sera notre représentant élu pour faire la tournée des trois restaurants participants. Alors, ça vous va?
Oui.
Question?
Oui.
Oui, juste savoir, est-ce que vous pouvez envoyer une copie de ça à la municipalité afin qu'on puisse transférer l'information à nos citoyens?
Oui, la promotion. Absolument. La promotion, on est à finaliser la promotion, M. Guillemette, par rapport à ce concours-là. Puis, ça va être partagé. Pas seulement que chez vous, mais dans les 21 municipalités, puis tous nos partenaires, on va leur envoyer l'invitation là, pour qu'on puisse déguster les produits de notre région.
Excellent. Merci.
Ça termine le point de développement?
Oui, monsieur le préfet.
Parfait. On irait au point 12, qui est la gestion des territoires non organisés.
Alors, au niveau de l'entretien, voirie locale du TNO. Alors, c'est un extrait du comité administratif du 19 août 2020. C'est une recommandation de la part du comité administratif. Alors, la MRC d'Abitibi-Ouest s'est retirée de la Corporation des chemins d'hiver suite à différentes informations qu'on a reçues là, au niveau des entrepreneurs qui faisaient l'entretien de nos chemins d'hiver. Alors, la MRC est responsable de l'entretien d'un tronçon de niveau 2 qui est localisé dans le 6e et 7e rang sur le TNO Rivière Ojima, secteur Languedoc. Alors, au niveau du comité administratif, il a été proposé par M. Alain Gagnon et M. Florent Bédard de recommander au conseil d'administration d'accepter l'offre de service de proue et jeunesse pour l'entretien hivernal du tronçon sous la responsabilité de la MRC d'Abitibi-Ouest dans le territoire de Languedoc pour la saison hiver 2020-21. Alors, le montant qui a été convenu, c'est de verser un montant de 2 730 $ par kilomètre, taxe en su, et de m'autoriser à signer le contrat de service. Alors, on a besoin d'avoir donc une résolution pour la recommandation du comité administratif.
Est-ce qu'on peut enlever le partage d'écran, s'il vous plaît?
Excusez, monsieur le préfet.
Là.
C'est fait.
Il y a combien de kilomètres là-bas?
Je n'ai pas on l'information.
Parle, on parle de 8, un peu plus de 8 kilomètres.
Une proposition de M. Guillemette, secondée par M. Bourque. Ça va pour tout le monde?
Merci. Oui.
Résolution diverse?
Alors, donc, au niveau de la motion de félicitations, tu prends note? Oui.
Non. Ben, j'ai entendu tantôt.
Alors, au niveau de la résolution diverse, on allait avec une motion de félicitations pour le professeur Ahmed Kouba. Alors, on prendrait une proposition ici, monsieur le préfet.
Monsieur Bourque et monsieur Goulet.
Alors, lettre de remerciement pour notre premier ministre qui a eu l'amabilité de venir nous visiter pendant l'été.
Monsieur Guillemette et madame ouais. Perrault, merci.
Dans résolutions diverses également, on vous recommande d'adopter une résolution pour solliciter le gouvernement pour qu'il y ait de l'aide financière pour les frais engendrés dans le cadre de la COVID-19. Certaines MRC ont pris une résolution particulièrement pour les camps de jour parce qu'il y avait des frais là, supplémentaires. On le sait que certains camps de jour ont eu de l'aide de différents fonds. Il y en a qui n'ont peut-être pas obtenu. Donc, souvent, c'est les municipalités qui ont à gérer les camps de jour au niveau de ces frais-là. Puis, tout autre frais engendré par la COVID-19 jusqu'à maintenant, donc d'adresser au gouvernement en appui avec la FQM qui fait aussi ses représentations, dont on est membre, dont plusieurs d'entre vous sont membres également, pour appuyer ces démarches-là auprès du gouvernement.
Ça va pour tout le monde? Oui, M. Oui. Bourque et M. Plombe.
Dans résolution diverse, je poursuis avec le dépôt du rapport annuel 2019 concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest. Alors, on doit déposer ce rapport-là à chacune des années, donc où on dépose l'octroi des contrats qui ont été donnés de plus de 25 000 $ octroyés par la MRC. Donc, Micheline, est-ce qu'on nomme les contrats et tout ça dans la présentation ou c'est le rapport?
Ben, écoutez, je pense que chacun des maires a reçu là, le document. Là, via l'intranet et ce document sera publié également là, sur le site de la MRC.
Alors, c'est un document qui est public, donc on demande une résolution permettant l'adoption et le dépôt de ce rapport.
Moi.
Monsieur Godbout, secondé, monsieur. Bon, merci.
Au niveau d'une résolution également ici, notre représentant de la MRC au Centre d'appel d'urgence de l'Abitibi-Témiscamingue, le COAT. Alors, c'est des mandats de 2 ans. C'est M. Bourque actuellement qui est représentant au conseil d'administration. Son mandat se termine en novembre prochain. Alors, pour permettre de renouveler son mandat pour les 2 prochaines années, on doit avoir une proposition de notre table des maires ici confirmant la nomination de M. Bourque.
Propose.
Oui, Mme Lafrenière, secondée de M. Gagnon, ça?
Oui.
Oui, OK, je ne te voyais pas, tu es dans l'ombre.
Et M. Gagnon.
Oui.
Nommé M. Bourque. Résolution système d'information géographique phase 3. Alors ici, je laisserai Micheline faire une brève présentation avant de faire la proposition, donc de vous informer à quoi consiste cette phase 3 et les coûts. Alors à toi, Micheline.
D'accord. Alors, je fais un petit retour en arrière. Je vous ramène au conseil d'administration de décembre 2019 où on a commencé à parler de système d'information géographique. Alors, on a avancé beaucoup dans ce dossier-là. On a jusqu'à maintenant, vous avez sur chacun de vos sites Internet accessibles à vos citoyens toutes les matrices graphiques actuellement. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance. On a envoyé un courriel là, à vos directions générales pour les en aviser. Demain, on va envoyer une petite information supplémentaire également, un petit guide d'utilisation et une petite présentation sommaire là, de ce en quoi ça consiste. Alors, dans chacune de vos municipalités, vous aviez là, les matrices graphiques papier. Alors, dès maintenant, là, elles sont disponibles sur vos sites Internet. Et elles seront mises à jour là, ponctuellement, là, disons, 3-4 fois par année. Alors, ce de quoi on parle actuellement, c'est la version publique. OK? Alors, cette version-là, elle est limitée dans l'information là, qui est disponible. Alors, maintenant, nous en sommes à la phase 3 à l'intérieur de la diffusion qui consiste à rendre disponible à vos employés municipaux et à certains utilisateurs externes une version réservée, c'est-à-dire une version privée qui va être beaucoup plus complète. Donc, et elle nous a été, on a eu beaucoup, Normand a reçu beaucoup de demandes, soit de certains maires ou d'inspecteurs municipaux à l'effet que l'information là a été temporairement pendant une période non disponible. OK? Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'accepter l'offre de service là, pour cette version réservée. Alors, les frais mensuels pour cette version réservée sont de 1 170 $ à l'intérieur là, du budget de la MRC.
Mensuel, vous dites, Micheline?
Oui, mensuel. Mensuel. En ce qui concerne les accès qui vont être donnés pour cette version réservée, on va contacter là, vos directions générales. Il va y avoir une formation obligatoire. OK? Alors, groupe de géomatique Azimut, là, c'est ce qu'ils nous ont informé. Il va y avoir une formation obligatoire d'une durée de à peu près 3 heures et demie. Alors, pour être en mesure d'utiliser ce site, ça va prendre un mot de passe, un code d'accès et la formation. Vous allez tous recevoir là, cette information-là dans vos municipalités. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est sûr qu'il y a une petite politique de tarification pour l'utilisation qui vient avec ça. Alors, elle va viser là, que ce soit les organismes municipaux, ou que ce soit au niveau des utilisateurs externes, là, ça peut être un organisme à but non lucratif qui peut nous demander un accès à certaines données et non pas à l'ensemble des données. Ça peut être aussi, je vous donne un exemple, l'arpenteur qui peut avoir besoin d'accéder également à certaines données. En gros, c'est la présentation pour ce point.
Madame Trudel?
Oui.
Dans cette phase 3 là, qui est prévue, l'information qui va être présente dans cette phase-là, ça va être quoi? Est-ce qu'on va parler des zones habitables, urbaines? On va-tu parler de longitude, latitude?
Dans les faits, M. Godbout, toutes les données qu'on est en mesure de recueillir, on pourrait les mettre.
Okay. OK, ça veut dire les données qu'on avait déjà dans l'autre système, on va les revoir là-dedans.
Oui, oui, tout va être là. Ça, en partant, là, on va partir avec ça. Là. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé qu'on avait 31 couches de données d'informations qui pouvaient être accessibles. Mm-hmm. Et il n'en tient qu'à notre service de géomatique avec le temps d'y intégrer là, d'autres informations là, qui peuvent être nécessaires ou utiles à nos municipalités ou à d'autres utilisateurs.
Mais là, au niveau de couches, on va nous donner combien de couches, là ce montant-là de 1170 $ par mois?
Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour les couches.
Okay.
Il suffit qu'on ait l'information.
OK. Ça fait drôle de dire les couches, là.
Oui, c'est des couches numériques. D'accord?
Monsieur Guillemette?
Oui, il y a juste une question. Mettons un exemple. Il y a un arpenteur géomètre, il y a une personne dans le centre de la municipalité qui veut bâtir, qui veut utiliser un arpenteur géomètre. Est-ce que cet arpenteur géomètre-là, sous réserve d'autorisation de la municipalité, pourrait utiliser l'information?
Oui. Chaque accès va être un accès spécifique, OK? Parce que il y a certaines données qu'on pourrait qualifier de données sensibles, qui peuvent être utiles à votre municipalité, mais qui ne concernent pas nécessairement un autre utilisateur. Alors, chaque utilisateur va avoir un accès spécifique qui va lui être donné. C'est pas automatiquement, l'utilisateur n'a pas accès à toutes les données. Il a accès aux données qui le concernent et qui lui sont nécessaires.
OK, mais juste savoir si, mettons, l'arpenteur, une firme d'arpenteur géomètre peut utiliser le service, la MRC à ce sens-là, est-ce qu'il va avoir l'obligation de passer par une municipalité pour avoir l'autorisation pour faire une demande ou quoi?
Comment ça va fonctionner? Il va devoir passer par la MRC.
OK, c'est beau. C'est bon. Excellent, ça répond à ma question. Merci.
Monsieur Ricard, bon, je pense que vous avez une question. Ricard,
oui. Oui, je voulais savoir, est-ce que la couche de la ZIS, les zones inondables qu'on avait accès, qui a disparu, va revenir, elle?
Oui, comme M. Guillemette l'a demandé ou M. Godbout l'a demandé tantôt, tout ce qui était disponible auparavant va être accessible.
OK, merci.
on a vu hier un peu comment ça fonctionnait, puis c'est vraiment très, très intéressant. On va avoir une très belle plateforme.
Madame Trudel, est-ce qu'on a des dates de mise en service?
Dès demain, nous, on va confirmer, si vous prenez la décision, évidemment, on va confirmer avec le fournisseur. Ce qui va être probablement, qui va nous poser un petit peu de délai, c'est d'organiser la formation. OK? Parce qu'il y aura deux sessions de formation en ligne. OK? Donc, on va vous présenter deux choix de date là, à vos utilisateurs municipaux. Et c'est peut-être ça là, qui va nous demander peut-être un petit délai de peut-être une dizaine de jours là, à organiser. Là. Mais entre-temps, si parmi vos inspecteurs ou vos municipalités, il y a de l'information donc, qui vous sont nécessaires actuellement, vous pouvez toujours communiquer avec Brian. Là, il va être en mesure de vous fournir l'information.
Bonjour tout le monde.
Oui.
Oui, proposition.
Oui, M. Bon, proposé.
Moi.
Attendez de M. Godbout. Merci beaucoup.
J'en profiterai normalement peut-être faire le dernier point. Alors, au niveau des résolutions diverses. Alors, nous avons fait un appel de soumission pour le transport de matière organique, c'est-à-dire, vous savez, notre site de boue septique. Alors, on a un bassin qui est prêt à être vidé et on a fait appel aux entrepreneurs en transport sur notre territoire pour le transporter. Alors, nous avons reçu deux soumissions, une de Excavation Éric Lavoie au montant de 31 689,98 taxes comprises et une deuxième soumission de Transport Gélina au montant de 31 991,80. Alors, nous avons procédé à l'analyse des soumissions et suite à cette analyse, et considérant l'estimé que nous avions établi pour ce contrat, nous vous recommandons de rejeter les soumissions, car elles sont nettement supérieures à l'estimé que nous avions établi. Et nous allons regarder là, d'autres alternatives au sujet là, de ce transport.
Ça va tout le monde?
Ça veut dire que les deux soumissions sont rejetées.
Oui.
Exact. Proposition.
On transporte ça où, oui.
Monsieur Céleste et Monsieur Godbout. On transporte ça où, Micheline, Nobout?
Nobout était dédié chez Multitec.
Ah ouais.
D'enfouissement technique. Mais pas pour être enfoui, là. Pour faire de la valorisation là, sur des cellules.
Ça va? Il y avait-tu d'autres points dans les résolutions diverses?
Pas pour moi, Normand.
Ça l'est? Parfait.
Ça termine le point résolutions diverses.
On passe maintenant dans avis de motion, projet et adoption de règlement.
Alors là, c'est le moment critique où M. Grenier fait son entrée en scène. Alors, M. Grenier, je vous laisse introduire votre sujet et je vais partager votre présentation à l'écran qui est ici.
Merci, M. Lagrange. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui.
Oui, oui.
Oui. Donc, lors de l'envoi, vous avez vu qu'il y avait plusieurs documents qui étaient annexés là. À la fin des derniers points de ce soir. Donc, on va regarder pour le dessert. Donc, on garde le meilleur à la fin. Donc, je veux vous encourager là, au départ que l'ensemble des documents qui sont présentés, adoptés ce soir, vont être disponibles pour consultation là, pour les prochains mois aussi. Donc, vous aurez le temps de pouvoir revenir et consulter et poser des questions sur l'ensemble des documents que je vous présente. Donc, au départ, on vous présente le règlement là, qui va modifier le schéma d'aménagement qui vise particulièrement là, à raffiner les limites de zones de risque d'inondation selon la nouvelle donnée LIDAR. Vous vous en souvenez que dans le schéma, on a délimité des zones inondables qui n'étaient pas encore en vigueur, mais avec le décret en 2019 de la zone d'intervention spéciale, il avait mis certaines applications immédiates et il avait rajouté des limites là additionnelles à la fuite d'enfer et à du parquet. Et les citoyens ont constaté là, que la précision qu'on avait était très grande et imprécise au niveau du schéma. Donc, avec les nouvelles données LIDAR qu'on a reçues au cours des années 2019-2020, donc on a acheté le logiciel pour les traiter. C'est un engagement qu'on avait fait lors des consultations publiques là, qu'on avait fait à la SAR à Mécanique, à Galichin et à Tipeka en particulier dans cet élément-là, qu'on allait revenir avec cette nouvelle donnée-là qui nous permet au départ de clarifier cette zone-là en deux catégories, c'est-à-dire les zones à 0 à 20 ans et 200, de 20 à 100 ans. Je précise qu'on peut construire dans 20 et 100 ans. Ça nous permet aussi de... un principal avantage, c'est qu'avec les données de l'art, on va beaucoup plus précis. On va plus avec au mètre carré, au mètre près, comparativement aux 10 mètres près qu'on avait au niveau avant. Ce qui fait que ça diminue de façon avantageuse de la superficie qui sont identifiées en zone d'inondation. On parle plus de réduction de 50% dans les zones de végétation, dans les zones de développement, entre autres. Aussi, ça nous permet aussi, pour essayer de répondre à l'orientation du décret, d'intégrer la ZIP pour le territoire de la République Danseur et de Duperquet, parce qu'ils n'ont pas de code de crue, ils n'ont pas d'études de code de crue dans ce secteur-là. Et ça vient un peu moduler le secteur, ça diminue un peu le secteur végétatif, mais ça remonte les endroits qui ne sont pas sujets au développement au niveau de la superficie. Et on vient améliorer la précision, la qualité des cartes. Ceux qui ont pu consulter les cartes qui étaient annexées avec l'avis de convocation ont pu le constater. Deux autres objectifs par le règlement qui modifie le schéma d'aménagement qu'on propose ce soir, donc le projet de règlement. Donc, la deuxième dispositif vous présente un petit peu les trois autres objectifs qui... Tu vois que le contrôle, Normand, ou y a-t-il quelqu'un à l'écoute?
Oui. Vous ne le voyez pas à l'écran?
Je suis rendu à la deuxième.
Non, ça n'a pas transféré.
Ça n'a pas transféré, bon, t'as un peu.
Vous avez le temps que Normand se trouve, règle le problème technique, je vais poursuivre. Le deuxième objectif, c'était vraiment supprimer les articles là, qui étaient au niveau de la tarification dans le schéma, au niveau d'éoliennes et porcheries. Cet élément-là, ces deux éléments-là, fixaient dans le temps des prix pour de la consultation et des projets éoliens. Donc, on voulait laisser, c'était pas une obligation et on voulait que chaque municipalité ait le loisir de déterminer et de l'ajuster dans chacun dans leur réglementation respective. Et la MRC a déjà une réglementation à cet effet pour ce qui est ce projet au niveau des TNO et sur l'ensemble du territoire quand la consultation est transférée à la MRC. Normand, as-tu trouvé la solution ou?
Non, je travaille là-dessus. Si, quand vous la voyez, vous Normand, me direz.
Oui? Normand, est-ce que c'est toi qui contrôle le curseur?
Ouais, c'est moi.
Bon, ben, va-t'en de 1 sur 1 à 10, là, tu fais juste peser sa flèche à côté.
Diapositive.
Prends ton curseur, va-t'en sur 1 à 10, là, puis pèse sur la... Tu vas enchaîner tes...
C'est ce que je fais, M. Guillemette, puis je sais pas pourquoi, mais ça marche pas.
Ah, OK.
Donc, je poursuis quand même, Normand, puis... Je te laisse. Il y a peut-être un appui de Denis peut donner un coup de main. Autre élément qu'on pose dans le projet de schéma, le règlement qui modifie le schéma, c'est qu'on retire le périmètre à Saint-Eugène-le-Chagel pour des éléments précis, dans le sens que ça ne correspond plus à un périmètre urbain pour trois maisons. Là, ça fonctionne à Normand. Oui. principal. Donc, pour une question de logique et de respect par rapport à l'ensemble du territoire, on enlève le périmètre d'urbanisation de Saint-Eugène parce qu'il n'est pas dans le règlement de zonage actuel et ça ne correspond plus à la définition de périmètre. On rappelle que le périmètre à Saint-Eugène-le-Chagel, il y a trois maisons, deux habitées puis une à l'occasion. Et c'est pas l'endroit qu'on planifie projeter à court et à moyen terme au niveau d'un développement de l'intérieur. On modifie aussi les conditions et d'émission de permis ou qu'on enlève une section qui était pour respecter la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou que c'était une partie de phase qui ne permettait pas de contrats à ne devant pente. Donc, on vient se conformer à la loi. Tout ça a été présenté, l'ensemble du projet de règlement a été présenté au comité d'aménagement qui vous recommande les étapes suivantes. Dans le sens que ce soir, on vous propose de faire un avis de motion et d'adopter le projet de règlement pour passer légalement à une consultation publique. Que la consultation publique qui serait prévue en novembre. Et le règlement sera adopté en janvier 2021 pour permettre la consultation publique parce qu'il faut transmettre ce règlement au ministère des Affaires municipales, le projet. Et il rentrera en vigueur en avril suivant lorsque le ministre va signer un avis favorable de conformité aux orientations gouvernementales. Donc, ça va jusqu'à date?
Oui.
Donc, si vous êtes. Donc, si, Normand, est-ce qu'on prend tout de suite les résolutions concernant ce projet-là ou on les fait tout à la fin ou. Maintenant que les quatre éléments qui ont été présentés, l'ensemble du règlement a été présenté au comité d'aménagement. Et celui-ci vous recommande de l'adopter ce soir, d'adopter le projet de règlement.
Alors, M. Grenier, on va prendre un avis de motion qui va être donné donc par un des membres de la table des maires, M. le préfet, et également un dépôt, donc de déposer le projet. Donc, c'est deux personnes qui peuvent faire. Soit une personne à l'avis de motion, puis l'autre personne qui dépose le projet de règlement à la table des maires pour, par la suite, là, aller de l'avant.
Est-ce que tu le fais tout de suite après chaque règlement ou on le fait à la fin?
Je précise que ça prend trois éléments normaux. Il y a l'avis de motion, il y a un dépôt, une présentation, et l'avis de motion, il faut adopter le projet ce soir.
Le projet,
pour
c'est ça.
Le projet. Donc, on fait à la fin ou on fait tout de suite?
Ben, écoutez, on peut le faire en rafale à la fin, mais ça va être la même chose là, pour chacun des règlements.
Moi, c'est juste que là, je ne peux pas voir tout le monde. Fait que, je ne sais pas si vous voulez, si toi, tu vois tout le monde, Normand?
Oui, moi, je vois tout le monde.
Fait que d'abord, on peut y aller au fur et à mesure.
Alors, j'ai M. Bourque qui fait l'avis de motion est donné par M. Henri Bourque. Le projet de règlement est déposé par Lina Lafrenière et il est proposé de déposer le projet. L'adoption donc du projet de règlement doit être proposée et secondée. Alors, M. Guillemette propose l'adoption du projet de règlement appuyé par
moi,
M. Pierre Godbout. À ce moment-ci, M. Grenier, on doit former la commission pour la santé, l'Assemblée publique.
Oui, c'est la prochaine diapositive où que dans la prochaine étape, c'est la consultation publique. Ça nous prend une formation de commission. À cause de la COVID, on a deux choix qui offrent à nous. Absolument, c'est une assemblée publique qu'on organise sur le territoire. Mais on a le choix de faire une consultation écrite à raison de la COVID-19 et on sera accompagné d'une vidéo qui sera disponible sur le site Internet qui va venir présenter le contenu du projet de règlement. La période de consultation écrite est fixée par le décret. C'est 15 jours fixes qu'on propose en novembre, 4 au 19 novembre. Vous allez voir pour quelle raison qu'on propose novembre par après. La commission sera formée au minimum, ça prend deux membres minimum. Donc, au départ, il y a d'office le préfet ou le préfet nomme une autre personne pour le remplacer et on suggère le préfet suppléant là, pour vraiment que où la commission va vérifier, va s'assurer que on fait bien la présentation, la consultation, qu'on a bien reçu les commentaires écrits et qu'on les retransmet de façon au conseil avant d'adopter le second, avant d'adopter le projet. La diffusion, le règlement sera disponible pour consultation sur le site internet de la MRC. Et je mentionne qu'une municipalité peut demander une assemblée publique lors de la séance d'adoption du projet ce soir, ou une municipalité peut demander par résolution une assemblée publique dans les 20 jours qui suit suivant la réception du projet de règlement. Donc, c'est marqué « à valider avec le ministère des Affaires municipales et d'habitation ». Donc, on a eu une réponse qui précise que cet élément qui est prévu dans la loi sur l'aménagement n'a pas été pris compte quand ils ont fait, ils n'ont pas vu cette spécification-là quand ils ont fait le décret. Ça permet légalement à une municipalité qui retourne chez eux, qui voudrait savoir une assemblée publique sur leur territoire, de faire la résolution et la transmettre à la MRC. Si c'est le cas, on sera dans l'obligation de vous le représenter à la prochaine assemblée du mois d'octobre. Mais pour ce qu'on vous recommande, c'est d'adopter que ce soit une consultation écrite, que ce soit faite comme consultation publique, ce qui durera le 4 au 19 novembre. Donc, ça prendrait peut-être une proposition ou une contre-proposition par rapport à cette démarche-là.
Alors, on aurait besoin d'une recommandation de la formation de la commission dans un premier temps. Donc, on vous recommande que la commission soit composée de M. Jacquelin Bégin, préfet, et de M. Alain Gagnon, préfet suppléant, d'accompagner M. Normand Grenier, directeur de l'aménagement, dans cette démarche, que s'il y a assemblée publique, ça soit présidé par Jacquelin Bégin, et que, comme directeur général, soit désigné afin de fixer la date, les lieux et modalités de l'assemblée publique, s'il y avait demande. Comme on vous l'a nommé dans le contexte, on recommande fortement aux municipalités de participer avec la consultation écrite. Puis, si jamais il y avait des enjeux particuliers, bien, comme on vous le dit, on vous ramène ça à la table des maires pour voir quelles dispositions qu'on va prendre par rapport à ça. Alors, je prendrai une recommandation pour la formation de la commission proposée par David Goulet et appuyé par Léo Plourde. Donc, de nommer M. Bégin et M. Alain Gagnon d'Outienard pour la commission.
Et c'est dans la même résolution, Normand, qui t'autorise à fixer la date.
Oui, c'est dans la même résolution. Oui.
OK.
On Normand?
Oui.
Oui.
Pour la former la commission, là, ça, c'est les membres là, qui font partie de la MRC, mais j'imagine qu'il va y avoir aussi des membres des affaires municipales qui vont y participer aussi.
Je précise que la commission, c'est une c'est pour vérifier le travail qu'on fait comme à la MRC, puis s'assurer qu'on fait un bon déroulement de la consultation publique auprès des citoyens. Et ce contrôle-là se fait par les membres du conseil. Le ministère des Affaires municipales ne participe pas à cette commission-là. Okay.
C'est bon.
Alors, comme présenté au début, je vous recommande qu'on va en consultation, que le management, c'est un pouvoir partagé, et que ça prend la probabilité. C'est le ministre qui donne le marteau qui juge à la fin si le règlement est conforme selon les orientations du gouvernement. Il serait préférable d'avoir tout de suite l'avis s'il y a des éléments qui accrochent ou qui ne respectent pas les orientations. Donc, il faut demander l'avis par écrit sur le projet de règlement. Êtes-vous d'accord qu'on vous demande un avis? Si c'est oui, on vous demande d'aller faut faire ça par résolution.
Alors, M. Alain Gagnon d'Outienard fait la proposition de demander l'avis au ministre, appuyé par Mme Sylvie Perrault.
Il y a un autre élément qui est intégré avec cette modification de schéma, c'est qu'il faut adopter ce soir un document qui s'appelle « La nature des modifications à apporter au plan et au règlement d'urbanisme municipaux ». Donc, ce document est obligatoire selon la loi sur l'aménagement de l'urbanisme afin d'assurer la conformité à l'environnement d'urbanisme et le règlement de la MRC qui modifie le schéma. Ça vous vient vous informer qu'est-ce qui va votre obligation par après. Donc, sur les modifications que vous devez faire au niveau des plans et règlements d'urbanisme pour chacune de ces pays à la suite de l'entrée en vigueur du règlement. Vous en souvenez que l'entrée en vigueur soit plutôt au mois d'avril prochain. Donc, le document décrit les municipalités qui sont assujetties, décrit les obligations légales. Donc, je précise que, l'ensemble des municipalités n'a pas encore intégré le règlement de concordance avec le schéma. Donc, ils pourront intégrer les deux processus dans le même pour intégrer les modifications qui vont entrer en vigueur dans leur revision de plan et règlement d'urbanisme pour intégrer l'information qui est à jour. Le document précise aussi la nature de règlement à changer, si c'est le règlement de zonage, lotissement, et ainsi de suite, et les éléments de concordance qui sont au tableau dans le document. Ce document-là a été présenté au comité d'aménagement qui vous recommande de l'adopter ce soir.
Alors, on va prendre également une résolution pour adopter le document « Nature des modifications au plan et règlement d'urbanisme », donc pour proposé par Rémi Jean et appuyé par Lina Lafrenière.
On s'est rendu au point suivant, qui sont la révision des règlements d'urbanisme des TNO, comme on vient d'en brièvement la nécessité ou l'utilité de ce que je vous propose ce soir sur les 6 règlements d'urbanisme, c'est principalement de se conformer au schéma d'aménagement. Comme tout l'ensemble d'une municipalité doit se conformer là, suite à l'entrée en vigueur du schéma en 2017, nous sommes rendus au deuxième délai accordé par le ministre qui se termine le 31 décembre. On est toujours dans le délai accordé. L'autre raison, c'est de mettre vraiment à jour la réglementation actuelle qui date de 1986. Donc, l'adapter à une nouvelle réalité là, qui fait déjà 34 ans que ces règlements-là n'ont pas été modifiés. Il y a eu, entre-temps, des nouvelles lois, il y a eu des nouveaux contextes, par exemple, les porcheries éoliennes, les gens intergénérationnels, et il faut l'adapter aussi avec cette nouvelle jurisprudence qui a été émise depuis 34 ans. Ça va venir réduire les problématiques d'interprétation et les imprécisions qu'il y a dans les règlements actuels. Je vous invite grandement à aller de l'avant dans votre circuit d'université, parce que votre inspecteur et votre directeur-directrice au niveau de l'application actuellement, c'est un casse-tête et ça peut amener des erreurs d'interprétation et d'oubli dans l'ensemble des éléments qui étaient faits. Donc, une nouvelle révision nous permet de repartir à zéro. Les règlements touchés par cette révision, il y en a 6. Là, je précise qu'on ce soir, on parle des premiers projets parce qu'il va y avoir des seconds et le règlement dans une troisième étape. Donc, c'est le règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de lotissement, de construction et le règlement relatif aux conditions de délivrance des permis de construction et le règlement de sidération mineure. C'est tous des règlements qui sont en vigueur actuellement dans le TNO, mais tranquillement, donc on vient. Le but, c'est de remplacer des règlements plus récents. Donc, ces éléments-là, les étapes qu'il y a à faire, qui est recommandé par le comité d'aménagement, c'est de faire un avis de motion ce soir et d'adopter ces 6 premiers projets de règlement. L'autre étape, ça va être une consultation publique et on va d'une deuxième étape adopter des seconds projets de règlement qui est prévu en novembre. Il va y avoir un avis public et une période d'enregistrement pour les personnes en vie de voter. Donc, c'est toute une procédure plus longue là, prévue dans la loi sur le management qui est différente par rapport aux règlements municipaux. Pour ceux qui connaissent plus, d'autres beaucoup moins. Et en décembre, on adopte les 6 règlements. Et l'avis public, l'entrée en vigueur, se fait en décembre. Je précise que notre délai est le 30 décembre cette année. Donc, le comité recommande donc de recommander ces 6 règlements. Donc, officiellement, ça prend 6 avis de motion et 6 adoptions de premier projet, ainsi que 6 dépôts et de présentation du règlement.
Alors, on va y aller donc pour le premier projet de règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. J'aurais besoin d'un avis de motion qui doit être donné. Alors, l'avis de motion est donné par Sylvie Perrault. Le projet de règlement est déposé par, j'ai des pouces levés, là, j'en vois plein, Rémi Jean. Et finalement, l'adoption du projet de règlement doit être proposée et secondée dans cette étape-ci. Donc, je vais prendre Alain Gagnon d'Autier-Nord et Lina Lafrenière. On poursuit avec le deuxième règlement, toujours pour le TNO, premier projet de règlement de zonage. Alors, encore là, on doit avoir l'avis de motion, projet de règlement et l'adoption du règlement. Avis de motion déposé par M. Henri Bourque. Le dépôt du projet de règlement est fait par Alain Guillemette. Et l'adoption du projet de règlement est fait par M. Pierre Godbout et secondé par David Goulet. Toujours pour le TNO, premier projet de règlement de lotissement. Alors, avis de motion donné par M. Alain Guillemette. Le projet de règlement est déposé par Madame Sylvie Perrault. Et l'adoption du projet de règlement est proposée et appuyée par M. Pierre Godbout et M. Daniel Céleste. On poursuit avec le premier projet de règlement de construction. L'avis de motion est donné par M. Michel Clich. Le projet de règlement est déposé par M. Rémi Jean et appuyé par M. Léo Plourde et M. Alain Guillemette. Alors, on poursuit avec le premier projet de règlement relatif aux conditions de délivrance des permis de construction. Avis de motion donné par Lina Lafrenière. Le projet de règlement est déposé par David Goulet. Et l'adoption du projet de règlement est proposée par Sylvie Perrault, appuyée de Henri Bourque. On continue notre sprint. Le premier projet de règlement sur les dérogations mineures. Alors, l'avis de motion est donné par M. Rémi Jean. Le projet de règlement est déposé par M. Alain Guillemette. Et l'adoption du projet de règlement est proposée par M. Jacques Ricard et appuyé par Mme Lina Lafrenière. Alors, on est rendu maintenant, M. Grenier, à la formation d'une commission pour justement la consultation publique.
Donc, c'est dans la même règle. Donc, on avait la possibilité de faire une assemblée publique ou de faire une consultation écrite en raison de la COVID-19, avec l'arrêté de juillet dernier, et d'accompagner d'une vidéo disponible sur le site Internet. Donc, on est le contexte d'ouvrir les portes d'une assemblée publique. Donc, je crois que c'est plus opportun de vous conseiller d'une consultation écrite qu'on faudrait faire dans la période du mois d'octobre, le mois prochain, du 9 au 26, qui est une durée de 15 jours. Et la loi prévoit que cette consultation est supervisée par le préfet. Donc, c'est par un membre du conseil qui est désigné. Et c'est le préfet va vérifier si on fait toute la procédure et si on suit bien les comment qu'on répond aussi aux questions qui sont posées par écrit lors de la consultation publique. Donc c'est le préfet ou un autre membre désigné par le préfet.
Différence, M. Grenier, c'est que cette commission-là, c'est seulement que un élu, il n'y a pas de nécessité d'en avoir deux.
Exact.
OK.
Donc si Jacqueline ne souhaite pas assumer cette responsabilité, il peut en désigner un des membres pour le remplacer. Et le règlement va être diffusé sur le site Internet de l'MRC. Nous, on vous propose, je pense qu'il serait important qu'on rencontre la présidente du comité de Languedoc et aussi de Saint-Eugène de Chagel et des représentants de Forêt d'enseignement de recherche du lac du Parquet. La nouveauté de ces projets de règlement-là, de TNO, c'est qu'on a regroupé ces trois territoires dans un seul règlement, plutôt qu'avoir trois règlements distincts comme ce qui était auparavant.
Alors, il faut avoir une proposition pour nommer M. Bégin?
Une proposition pour dire qu'on souhaite faire une consultation écrite et désigner le directeur général pour fixer la date de la consultation.
Alors, on prendrait une proposition qui doit être appuyée. Donc, M. Léo Plourde, appuyé de Mme Sylvie Perrault, que l'Assemblée soit écrite, présidée par M. Bégin, et que je puisse fixer la date et les modalités de tout ça. Je pense que ça fait le tour de ce dossier-là, M. Grenier.
Ça fait le tour des dossiers concernant les règlements, les projets de règlement. Si je peux poursuivre avec le projet d'aménagement.
Allez-y, M. Grenier.
Donc, comme plus tôt ce soir, vous avez vu au niveau de la correspondance qu'on avait reçue, la réception et un montant qui était conservé pour faire le plan de régional des milieux humides et hydriques, une nouvelle responsabilité qui était attribué à aux MRC. Donc, juste pour vous aviser que c'est Jonathan là, qui travaille, Jonathan Arsenault, qui a débuté le travail et qu'on a reçu du ministère au cours des dernières semaines la convention d'aide qui vient déterminer, qui est associée au montant d'aide. Donc, c'est une obligation qui est associée avec ce montant-là. Donc, dans les prochaines semaines, on va vraiment passer à travail et on va revenir à la prochaine rencontre pour vous faire des suggestions, des recommandations par rapport d'accepter et de désigner personne pour se signer cette convention d'aide, s'il y a lieu. Donc, c'était
pour... La résolution?
Non, juste une information. Non.
Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Ça va, merci.
Alors, dans le dossier aménagement, pour un suivi, il y a la demande à portée collective. Donc, M. Grenier, vous avez eu un accusé de réception. Je vous laisse présenter.
Oui, donc, lors de la dernière rencontre au mois de juin, si vous vous en souvenez, on a pris la décision de déposer une demande de portée collective à la Commission de protection du territoire, se basant sur la résidence par l'eau. Donc, le document a été transmis à la Commission, les données numériques aussi, et on a reçu une accusée réception le 24 juillet dernier. Le dossier porte le numéro 42-85-89. Donc, la Commission, là, la prochaine étape, là, l'agenda appartient à la Commission, c'est-à-dire qu'ils vont prendre connaissance de nos documents, ils vont dire si c'est recevable, oui ou non, et passer à l'analyse des documents et communiquer avec la MRC pour fixer les prochaines étapes de la rencontre au niveau de la MRC et de l'UPA. On vous a donc les documents sont disponibles. Les documents vont être transmis aussi à l'UPA. Donc, entre-temps, on a rencontré la députée, Mme Suzanne Blais, pour présenter la démarche qu'on fait actuellement et les arguments pour l'article 59. Je m'attends au niveau du délai, au niveau des prochaines étapes. J'ai pas eu de précision de la commission. Je présume que ce sera pas avant l'année prochaine qu'on va avoir d'autres nouvelles de leur part.
Alors, merci, M. Garnier. Oui.
Parole au public, je crois que avez-vous reçu des questions?
Non, les gens avaient jusqu'à 16 heures aujourd'hui pour nous faire parvenir des questions. Aucune question n'a été transmise par le public.
Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la levée de la parole?
Oui, Monsieur Côté.
Donc, je vous remercie tout le monde. Je sais que c'est pas toujours évident, mais pour l'instant, c'est le moyen qu'on prend pour être capable de se réunir et prendre les décisions nécessaires. Fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée et merci beaucoup de votre excellente collaboration.
Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.
Bye bye.
Bye bye. Bye bye tout le monde. Bonne fin de soirée.
Bonne fin de soirée.
Bonsoir.